Donc voilà, épître de Paul aux Colossiens, et nous en étions au chapitre 3 et verset 18. Colossiens chapitre 3, et à partir du verset 18, et nous lirons jusqu'au chapitre 4, verset 1er. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, il n'y a point d'acception de personne. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Amen. Voilà où nous en sommes dans cette étude sur l'épître aux Colossiens. Alors l'avantage quand on étudie une épître dans son entier, c'est qu'on ne peut pas éviter certains passages. C'est l'avantage. Alors on pourrait éviter de parler des femmes qui doivent être soumises, etc., etc. Mais ça fait partie de l'épître aux Colossiens. Et donc nous allons, entre autres, parler de cela ce matin. Mais rappelons-nous que la dernière fois où nous avons parlé du début du chapitre 3 des Colossiens, nous avons vu que le péché et ce qu'il y a dans notre cœur nous sépare des autres. Je rappelle au verset 8, il était dit « Mais renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. » Et puis au verset 5, il parlera de l'impudicité, de l'impureté, des passions, des mauvais désirs, etc. Et nous avons vu que toutes ces choses-là nous séparent non seulement de Dieu, mais aussi nous séparent de nos semblables. Par contre, nous avons une vie nouvelle en Christ, nous avons revêtu le Seigneur Jésus, et l'apôtre Paul nous parle, et nous l'avons vu la semaine dernière, enfin il y a deux semaines, nous parle d'humilité, de bonté, de miséricorde, de douceur, de patience, d'amour, de pardon. Et toutes ces choses-là, bien sûr, favorisent les relations entre nous, entre les êtres humains. Alors, ici, l'apôtre Paul, nous l'avons lu, parle des relations entre hommes et femmes, entre parents et enfants, et puis aussi dans la société, puisqu'il parle aussi des relations entre les maîtres et les serviteurs. Tout d'abord, il est dit au verset 18, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Voilà. Alors, c'est ce passage qui introduit toutes ces relations entre hommes et femmes, et parents et enfants, et maîtres et serviteurs. Ici, l'apôtre Paul parle du principe que, vu qu'il parle à des chrétiens, aux chrétiens de Colosse, que ce sont des familles qui sont en Christ, où l'homme et la femme sont convertis, et les enfants aussi. Alors, nous verrons un peu plus loin que la situation n'est pas toujours aussi idéale, puisqu'il peut y avoir dans le couple un des deux conjoints qui n'est pas converti, ou qui se comporte mal, etc. Donc la situation n'est pas toujours aussi évidente que cela et aussi facile. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Alors cette soumission de la femme envers son mari a fait couler beaucoup d'encre, et ce principe paraît, enfin je dis bien paraît, désuet aujourd'hui. Toutefois, c'est dans la parole de Dieu, et ce passage a quelque chose à nous apprendre, à nous instruire pour nous aujourd'hui. Ce principe aussi, parfois, nous le comprenons mal, puisque l'Évangile apporte la liberté. Jésus est celui qui libère les captifs. Sa parole nous libère, sa vérité nous affranchit. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Il nous a libérés. Il nous a rendus libres du pouvoir du péché. Donc, on pourrait opposer principe de liberté à celui de soumission, mais ce n'est pas opposé. Ce principe de soumission pourrait aussi sembler contradictoire avec un autre principe de la parole de Dieu, de ce que nous apporte l'Évangile et ce que nous apporte Jésus-Christ, c'est-à-dire le principe d'égalité, puisque l'apôtre Paul écrit par ailleurs qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Donc on voit que les deux sont en Christ égaux, ce qui n'existait pas dans, j'allais dire, la religion antérieure, et ce qui n'existe pas aujourd'hui partout dans le monde. Mais en Christ, il y a une parfaite égalité. Il n'y a plus ni homme ni femme, comme nous dit l'apôtre Paul. Ils sont égaux. Alors, pour ces raisons-là, cette soumission de la femme envers son mari est parfois soit refusée, soit mal comprise. Mais j'aimerais quand même m'arrêter sur le verbe soumettre, tel qu'il est écrit dans le grec. Alors c'est intéressant de noter que dans le grec, le verbe qui a été traduit en français par soumettre, c'est un terme militaire qui reprend l'image d'un soldat qui se place sous l'autorité de quelqu'un, qui se met, en s'engageant dans l'armée, se place sous l'autorité de supérieur, il rentre dans les rangs. Et il ne pourra plus, étant soldat, s'engageant dans l'armée, il ne pourra plus faire sa vie comme il le veut. Non, il ne fera pas comme cela. Il ne pourra plus se comporter d'une manière indépendante en électron libre. Ça serait pour lui se mettre en danger, mettre en danger aussi tout le bataillon dans lequel il est. Donc il se place sous cette autorité. Et c'est ce terme-là que l'apôtre Paul emploie lorsqu'il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », c'est un terme militaire. Alors, il faut bien comprendre que la femme, lorsqu'elle se marie, lorsqu'elle fait ce choix de se marier, elle se place volontairement sous l'autorité de son mari. Elle ne mène plus sa vie d'une manière indépendante, comme lorsqu'elle était célibataire. Quand elle était célibataire, elle pouvait faire ce qu'elle veut, non ? Mais elle n'est plus dans cette indépendance, mais dans cette dépendance. D'ailleurs, il y a une interdépendance entre l'homme et la femme, puisque ailleurs, l'apôtre Paul dit que la femme n'est pas sans l'homme et que l'homme n'est pas sans la femme. Donc, il y a une interindépendance. Donc, la femme n'est pas en électron libre, bien sûr, et le mariage n'est pas une simple cohabitation de deux êtres qui font leur vie chacun de leur côté, et puis c'est tout. Voilà, c'est pas ça le mariage, et l'apôtre Paul veut qu'on le comprenne bien dans ce cas-là. Alors, notons au passage que ce n'est pas à l'homme de soumettre son épouse, mais il s'adresse aux femmes. C'est à elles de se placer sous cette autorité-là. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, que l'épouse n'a pas son mot à dire dans les décisions du couple, bien sûr. Elle doit et réfléchir à cela dans une saine discussion qu'il doit y avoir dans le couple. Et d'ailleurs, l'amour qui est dans le couple va favoriser cet échange, et lorsqu'une femme se sent aimée, elle n'a pas de difficulté à se soumettre à son mari. Et arrivé à ce point, au verset 19, l'apôtre Paul dit « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Alors, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Là encore, c'est important de comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit cela. On voit que l'apôtre Paul attache beaucoup d'importance à la famille. Il en parle dans les Éphésiens, il en parle dans les Corinthiens, il en parle aussi dans les épîtres à Timothée, etc. Donc, on voit que c'est un sujet assez récurrent dans les épîtres de Paul, et il attache beaucoup d'importance à la vie de famille parce que Dieu y attache beaucoup d'importance. Et à cette époque-là, c'est toujours d'actualité dans certains pays, je dirais, les mariages étaient arrangés. Les mariages étaient arrangés par les parents, comme ça se fait encore dans certains pays. Hein. Les femmes étaient considérées comme une propriété. Il faut bien comprendre cela. Hein. De la même manière qu'on peut être propriétaire d'une maison, l'homme était le propriétaire de son épouse. Voilà, la femme était considérée comme une propriété et elle n'était pas considérée comme l'égale de l'homme. Alors bien sûr, l'évangile va tout bouleverser parce que comme je le disais tout à l'heure, en Christ nous sommes égaux et bien sûr ça va changer tout cela et la femme n'est plus regardée comme une propriété. Hein. Donc, mais c'était le cas à ce moment-là et comme c'est encore le cas dans certains pays, donc les mariages étaient arrangés, la femme était une propriété, elle était considérée comme inférieure, et malheureusement pour elle, elle n'avait pas toujours accès à l'instruction, qui était souvent réservée aux hommes. Donc ce qui faisait que, en fin de compte, dans cette situation-là, peut-être que les hommes avaient du mal à aimer leur épouse, puisqu'ils n'avaient pas forcément fait le choix de se marier avec elle, puisque c'était sa propriété, puisqu'il la considérait comme inférieure, puisque manquant d'instruction, elle pouvait ne pas comprendre certaines choses, et tout ça pouvait entraîner beaucoup de mépris du mari vis-à-vis de son épouse. Et son comportement pouvait, n'étant pas amoureux d'elle, je veux dire, pouvait l'agacer, l'irriter, et il pouvait manquer de respect à son égard aussi maintenant qu'ils sont en Christ, ils sont devenus des nouvelles créatures, tout ce comportement est à bannir, et avoir Christ en soi, bien sûr, c'est avoir aussi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul, aux Éphésiens, va préciser quelque chose d'important. C'est un passage un peu similaire aux Colossiens, dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, il dira aux maris d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Voilà, donc nous voulons revêtir les sentiments de Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul place la barre très haute pour les hommes, puisque c'est comme Christ qui a aimé l'Église, et il s'est livré lui-même pour elle. Il a été jusqu'à la mort de la croix pour son épouse. Alors, ainsi aimé, comme je le disais tout à l'heure, l'épouse n'a pas de difficulté à se soumettre à son mari. Et à la lumière de tout ce que nous voulons dire face à ce que on vient d'entendre, ce serait bien de pouvoir relire, je ne vais pas le faire ce matin, mais vous pourrez le faire, relire le début du chapitre 3 jusqu'au verset 17, en repensant à tout ce que Paul dit et ses relations qui sont rétablies, ces relations qui sont favorisées par les sentiments qui sont en Christ, qui deviennent les nôtres, puisque nous sommes maintenant bénéficiaires de cette vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. En fin de compte, on pourrait dire que dans le couple, chacun renonce à lui-même, par amour. L'épouse, se soumettant à son mari, elle renonce à elle-même. Le mari, aimant son épouse comme Christ l'a aimée, il renonce à lui-même. Lorsqu'on aime quelqu'un, l'autre passe d'abord. Alors, ça, c'est dans les situations idéal. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas toujours évident parce que dans le couple, il y en a peut-être un qui ne suit pas le Seigneur et qui est même opposé au Seigneur. Parfois, c'est le cas. Nous avons passé, nous étions en Tunisie, et parfois même, il y en a un qui suit Jésus et l'autre qui ne l'est pas, qui reste dans l'islam. Et c'est parfois très difficile pour le conjoint qui se convertit. Et en France, nous avons aussi ces situations qui sont assez nombreuses. Un ne suit pas le Seigneur. Et le mari peut, par exemple, être violent. Il peut se comporter d'une manière dure envers son épouse. Et on comprend que ce soit difficile pour son épouse, et il lui faut vraiment toute la grâce du Seigneur. Il y a le cas aussi où parfois un des deux conjoints lâche la main du Seigneur et se détourne du Seigneur. C'est très difficile encore dans ces situations. Mais à chaque fois, la parole de Dieu nous donne l'attitude à avoir dans ces situations-là. Par exemple, dans les proverbes, il y a plusieurs proverbes qui nous parlent bien sûr, les proverbes, d'une manière générale, nous parlent de sagesse, mais nous parlent aussi de la vie du couple et de la famille. Et donc, dans la parole de Dieu, il y a des exemples, même dans les cas difficiles. On a l'exemple d'Abigaïl. Son mari était violent. Et il était dur, il était alcoolique aussi, hein, Nabal, et il est comme son nom, hein, il est écrit, hein, il est comme son nom, il est fou. Et on peut comprendre qu'au quotidien, ça devait être difficile pour cette femme de vivre dans ce couple-là, et on peut le comprendre. Et parfois, à cause de situations qui sont extrêmes, l'épouse ne pouvant plus aimer son mari d'un amour conjugal, comme Abigaïl ne peut l'aimer que d'un amour compassion et d'un amour respect. Mais dans ces situations-là, ce qu'on le remarque, c'est que le Seigneur donne sa grâce à ses enfants par son Saint-Esprit. Il fortifie ses enfants. Que Dieu soit béni. Et il nous faut prier pour nos bien-aimés frères et sœurs qui vivent dans de tels foyers, afin qu'il leur donne d'être ses témoins. Et on pourrait lire aussi dans l'épître de Pierre, où l'épître de Pierre, Pierre écrira que les femmes peuvent gagner leur époux qui n'est pas converti par leur manière de vivre. On va passer maintenant au second point, c'est les relations entre parents et enfants. L'apôtre Paul va maintenant élargir la famille. Alors là encore, nous sommes dans le cadre d'une famille chrétienne. Mais comme je le disais, ce n'est pas toujours si évident parce que le cadre des familles n'est pas aussi idéal. Et aujourd'hui, dans notre époque, dans notre génération, on voit que la famille est malmenée. La famille est malmenée et la mentalité d'aujourd'hui font que la famille est en danger, est attaquée, et les enfants ne grandissent pas toujours dans des familles qui sont paisibles et aimantes. Bien au contraire, il y a le cas de parents violents, de parents indifférents à leurs enfants, de parents qui sont peut-être idolâtres, de parents pervers, voire peut-être, et puis etc., etc. Donc c'est pas si évident cela. Mais l'apôtre Paul dit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Alors, C'est vrai que l'apôtre Paul, et ailleurs il fera référence aussi à la loi de Moïse, ici parle d'obéissance en toutes choses à leurs parents, surtout à notre époque. L'apôtre Paul dira par ailleurs dans 2 Timothée, excusez-moi, chapitre 3, que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Ici, la parole de Dieu va à contre-temps, j'allais dire à contre-courant de ce qui se passe d'une manière exponentielle aujourd'hui vis-à-vis de la rébellion des enfants envers leurs parents. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Alors, il serait trop long ce matin pour parler de l'éducation des enfants, ce serait fort intéressant. Mais rappelons-nous que Jésus lui-même a été soumis à ses parents de cette terre. On voit ça dans Luc chapitre 2, verset 51. Hein, il est dit qu'il aurait été soumis, il a été soumis à Joseph et à Marie. Et voilà, donc jusqu'au moment où il sera pleinement majeur, et à cette époque-là, dans ce pays-là, c'était 30 ans, hein, imaginez-vous. Et donc il aurait été soumis. Et on voit aussi qu'il est écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 8, que Jésus a obéi en toute chose à son Père céleste, puisqu'il est dit qu'il s'est rendu obéissant en toute chose, même jusqu'à la mort de la croix. Il a été jusque-là dans son obéissance, le Seigneur Jésus. Alors, il est dit aussi aux parents, « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Alors ici, c'est adressé aux pères. Ça ne veut pas dire que les mères n'ont rien à voir dans l'éducation des enfants. Bien au contraire, dans d'autres passages, et nombreux sont-ils, dans la Bible, eh bien, on voit le rôle de la mère, notamment dans les proverbes, etc. Donc, c'est très important. Alors, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. L'apôtre Paul, ici, donne un précieux conseil aux parents, aux pères, afin de ne pas irriter leurs enfants, et ils le peuvent en abusant de leur autorité. En abusant de leur autorité. Ou en exigeant à leurs enfants des choses qui sont trop élevées pour eux, qu'ils ne pourront pas faire, qu'ils ne pourront pas accomplir. Si l'enfant est appelé à obéir à ses parents et que ses parents lui demandent des choses qui sont impossibles à accomplir, on peut comprendre que l'enfant va soit s'irriter ou se décourager, hein, de peur qu'il ne se décourage. Donc voilà, il y a malheureusement plusieurs cas où les enfants peuvent être irrités, se décourager. On peut penser aussi au cas où il y a du favoritisme dans la famille, où les parents montrent bien qu'ils ont leur chouchou au sein de la famille. Et ça va créer de la jalousie, et la jalousie crée de l'irritation. Alors, les enfants vont dire « c'est injuste », etc. Donc ça va créer des tensions, des irritations. Alors, que Dieu donne de la sagesse, qu'il nous donne la sagesse pour ne pas irriter nos enfants. Que Dieu soit béni. Alors, bien sûr, là encore, je disais, c'est le cadre d'une famille chrétienne. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est difficile parfois pour certains enfants avec certains parents qui sont violents qui se comportent mal. C'est difficile pour des parents lorsque leurs enfants, malgré tout la bonne éducation qu'ils auront pu leur donner, tournent mal. Et là, on a le cas du père, du fils prodigue. Hein. Donc là encore, la parole de Dieu nous donne aux parents de conseils précieux dans toutes ces cas de figure. Et si tel est le cas, s'il y a une telle difficulté, eh bien, nous voulons donner au Seigneur la possibilité de parler à nos cœurs pour savoir ce qu'il convient de faire. Et puis après, il parle des relations entre les maîtres et serviteurs. Les maîtres et serviteurs. Alors, le mot, dans la plupart de nos versions, a été traduit par serviteur, et on peut le traduire ainsi, effectivement. Mais littéralement, c'est le mot esclave. C'est le mot esclave que Paul emploie, puisque dans l'Empire romain, il y avait l'esclavage. Il y avait l'esclavage. Et c'est ce mot que l'apôtre Paul utilise. Dans la ville de Colosse, puisqu'il s'adresse aux Colossiens, faisait partie de l'Empire romain. Et elle était donc sujette par ses lois de l'Empire romain. Et l'apôtre Paul ne va pas, comment dire, s'attaquer à ces lois, les citoyens romains aussi, mais il va donner ses conseils afin que les relations entre ses serviteurs et ses maîtres se passent bien. Se passent bien. Bon, il faudrait lire d'autres passages où l'apôtre Paul, parlant aux serviteurs, aux esclaves, dira « Mais si tu peux devenir libre, eh bien, profites-en plutôt. » Voilà, s'il y a une possibilité. Mais voilà, la loi, c'était la loi à l'époque. Et donc, il donne ce conseil aux esclaves, hein, aux serviteurs, d'obéir en toutes choses à leur maître selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Alors, bien sûr, on peut transposer aujourd'hui entre maître et serviteur, entre patron, ouvrier, voilà, il y a ceux qui dirigent et puis il y a ceux qui exécutent les ordres. Et il y avait à cette époque-là plusieurs possibilités. Bien sûr, il y avait la possibilité que l'esclave soit un chrétien et pas son maître, la possibilité que le maître soit un chrétien et pas son esclave, et la possibilité où les deux, maître et esclave, étaient convertis. Alors, là encore, dans chacune de ces circonstances, la parole de Dieu est pleine de conseils, comme dans 1 Pierre chapitre 2, verset 18. 1 Pierre chapitre 2, verset 18. Je vais peut-être lire rapidement ce verset. Si vous avez la Bible, vous pouvez le lire avec moi. Il est dit « Serviteurs », là encore esclaves, hein, « soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Voilà. Là, ce que dit l'apôtre Paul, et après il donne la raison, l'apôtre Pierre, excusez-moi, et il donne après la raison pour laquelle, parce que c'est une grâce devant Dieu, de souffrir lorsqu'on fait ce qui est bien. Alors, dans ces situations, bien sûr, le Seigneur fortifie notre être intérieur pour nous aider à bien nous comporter afin que nous puissions être un bon témoignage. Et on pense à nos frères et sœurs qui sont dans des entreprises où ils ont des patrons, des directeurs, des chefs de service qui sont difficiles à vivre, j'allais dire, hein. Et c'est terrible que de partir au travail avec des angoisses, une boule au ventre, se disant « mais qu'est-ce qui m'attend encore aujourd'hui dans ma journée de travail ?» Alors, on prie les uns pour les autres, et ça c'est important de prier pour les uns pour les autres. Ici, on va revenir à notre passage de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans les Colossiens, au chapitre 4, verset 9, va parler d'un chrétien de Colosse qui s'appelle Onésime. Alors c'est intéressant de noter que Onésime fait partie de l'église de Colosse au même titre que son maître, Philémon. Hein, Philémon. Et on sait que Philémon était un chrétien et il était maître, il avait des esclaves, il s'est converti, hein, c'était déjà sa position. Et Onésime, avant sa conversion, qui était esclave de Philémon, va mal se comporter vis-à-vis de Philémon, il va se retrouver dans la prison où est l'apôtre Paul, et là il va se convertir. Et l'apôtre Paul donne des conseils à Philémon pour bien l'accueillir, pour bien le recevoir. Et on voit l'importance que l'apôtre Paul attache au fait que les frères et sœurs, les frères en Christ, quel que soit leur passé, quelle que soit leur relation dans la vie, relation professionnelle et autres, eh bien, doivent s'aimer de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Doivent s'aimer de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il va donner des conseils aux deux, et c'est intéressant de pouvoir y réfléchir. Alors, et puis après, bien sûr, il parle au maître, au chapitre 4, verset 1er, « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Alors, par définition, les maîtres sont ceux qui ont l'argent et sont ceux qui sont libres. Et les esclaves sont ceux qui n'ont pas d'argent, ils sont pauvres et ils sont sans liberté. Donc il va s'adresser à ceux qui ont de l'argent et qui sont libres et à ceux qui sont pauvres et qui sont sans liberté. Et il va responsabiliser les deux. Et ici, il responsabilise les maîtres qui doivent accorder à leurs serviteurs ce qui est juste et équitable. Il donne la raison, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Donc les maîtres, ils ont aussi un maître dans le ciel. Et ce maître-là a tout entre ses mains. Notre Dieu est notre maître à tous. Il est celui qui pourvoit à tous nos besoins et nous sommes soumis à lui. Donc l'apôtre Paul va les responsabiliser par rapport à cela. Et il nous ramène toujours dans notre relation avec le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, entre les hommes et les femmes, comme il est convenable dans le Seigneur, les maris doivent aimer leur épouse comme Christ aime l'Église, donc il nous ramène toujours là, en fin de compte. Toute notre vie en Christ va avoir des répercussions sur la manière dont nous nous comportons les uns vis-à-vis des autres, quelle que soit notre relation, que ce soit dans la famille, le voisinage, le travail, etc. Et l'articulation, j'allais dire, est au verset 25 du chapitre 3, « Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, il n'y a point exception de personne. » Voilà, donc ça c'est l'articulation de toutes ces relations entre maître et serviteur, et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à entretenir de bonnes relations. L'apôtre Paul dit par ailleurs d'être en paix envers tout le monde, autant que cela dépende de nous-mêmes.